Grosse journée dans la Ligue nationale de hockey. Washington est en train de remonter Tampa Bay. C'était 3-1 Tampa Bay, c'est 3-3. Il reste 4 minutes en troisième. Les Flyers ont gagné 6-1 contre Détroit en après-midi. Minnesota a gagné 7-2 sur Ottawa. Colorado l'a emporté 5-2 sur Chicago. Les autres matchs sont en cours, alors ça donne rien en première période. Je vous en reparlerai éventuellement. À ce stade-ci de l'émission, c'est avec grand plaisir que nous accueillons. Et d'ailleurs, il assistait à la victoire des Flyers aujourd'hui. Daniel Brière qui est avec nous. Salut Daniel!
Salut Mario, ça va bien?
Ça va très bien toi-même?
Ben oui, super, super.
Je sais pas si tu as parlé du monde en ville récemment, en ville, je veux dire Montréal, mais tu as une petite idée de l'ambiance qui peut régner dans une ville de hockey comme Montréal après six défaites de ton équipe?
Ah, je peux juste imaginer, je suis sûr que c'est pas très très plaisant pour les membres de l'Organisation du Canadien de Montréal là, dans le moment. Une ville comme Montréal qui mange du hockey, quand ça va pas bien, c'est sûr que ça se ressent un peu partout à travers la ville.
Daniel, explique-moi une chose, toi qui jouais il y a encore pas si longtemps. Quand une équipe n'applique pas un système qui vise à empêcher l'adversaire de scorer autant de buts, de produire autant de surnombre, c'est quoi les explications possibles quand une équipe veut pas se résoudre à faire ça pour gagner des matchs? C'est quoi les pistes d'explication que tu peux trouver?
Écoute, c'est drôle que tu me poses la question. J'essayais de penser à quelque chose aujourd'hui, justement, parce que je me disais, OK, je vais parler à Mario, on va me parler du Canadien, des déboires de Carey Price. Puis c'est justement ce que j'allais amener. C'est, écoute, je regardais le match hier, puis j'en revenais tout simplement pas le nombre de surnoms qu'on a donné pendant la rencontre. Oui, on peut blâmer Carey Price en long et en large. C'est sûr qu'il peut être meilleur, mais quand tu donnes des surnoms comme ça, je peux pas comprendre, puis je le sais pas. Puis j'ai pas vraiment d'explication. J'essayais de penser, tu sais, Claude Julien, c'est un entraîneur qui est reconnu justement pour limiter les chances qu'on donne à l'adversaire. Je me souviens de l'avoir affronté quand il était au New Jersey, quand il était à Boston. C'était toujours une des tactiques quand on affrontait les équipes à Claude Julien, c'était de trouver des façons pour créer de l'offensive. C'est dur de comprendre ce qui se passe parce que pour moi, écoute, c'est les joueurs qui doivent pas appliquer le système à la lettre parce que Claude Julien, c'est un entraîneur qui est reconnu pour savoir justement comment contrer l'adversaire.
Ben oui, c'est certainement sa spécialité, il est bien entouré. Fait que là, on gratte un peu, je pousse la réflexion. Les gars veulent pas jouer de même, les gars se pensent meilleurs qu'ils sont en réalité, pensent qu'ils ont une puissance offensive. Les gars regardent ce qui se passe à Toronto, où tout à coup, semble-t-il, qu'ils ont été lâchés lousse par Keith, puis ils pensent que c'est comme ça que l'hockey d'aujourd'hui se joue, puis eux autres back-checker, puis entendre le coach répéter les mêmes affaires.
Non, je suis pas prêt à aller là. Non, je crois pas à ça. Je crois que Claude Julien, c'est un entraîneur de ce que j'ai entendu dire, ou les rumeurs des autres joueurs avec qui j'ai discuté pendant plusieurs années, c'est que les joueurs aiment Claude Julien. Donc, je peux pas voir ça. Écoute, il y a le côté confiance. Naturellement, là, les joueurs se posent des questions. On a de la misère à marquer. On a de la misère à remporter des victoires. On essaye un peu trop fort, peut-être. Puis on prend des chances qui donnent des surnoms à l'adversaire qu'on devrait pas prendre. La clé, c'est justement pour Claude Julien d'expliquer à leurs joueurs de jouer un match plus simple. De limiter les chances à l'adversaire, puis ça va nous donner une chance de l'emporter. Je suis sûr qu'il a déjà commencé à faire ça, puis qu'il l'a fait avant hier. Mais hier, c'était complètement atroce là, ce qu'on a.
Mais depuis le début de l'année, ils sont pas bons défensivement depuis le début de l'année. Claude l'a dit hier. Même quand ils gagnaient, ils étaient pas vraiment bons défensivement. Mais ils s'en sont sortis. Et là, il dit ça empire. Fait que c'est sûr que. Écoute, Mario Tremblay, qui a quand même plusieurs années de coaching et comme joueur,
ouais,
a ouvert l'émission. Il nous a brassé un peu. Il nous a secoué en disant que veut pas. Si le club continue de perdre, il va falloir qu'il se passe quelque chose. C'est ainsi que ça va dans ce business-là. Et c'est plus facile de jouer défensivement qu'offensivement. Et l'idée que le Canadien est une puissance
offensive. C'est la bonne nouvelle.
Ouais, sauf qu'ils le font pas. Fait que donc, tu regardes nécessairement vers l'entraîneur, puis il dit, il va falloir qu'il se passe de quoi. Et il n'y a rien contre Claude Julien, mais il dit, c'est ça qui pourrait arriver. Et du même souffle de dire, et si tu veux brasser vraiment les choses à Montréal, il y en a un gars, il coach les Remparts de Québec en ce moment, puis c'est Patrick Roy. Toi, t'as joué pour Patrick.
Écoute,
ouais. Oh, là, t'es surpris, hein, mon dame?
Là, je l'avais pas vu venir, celle-là. Écoute, j'ai adoré Patrick. Je m'en suis jamais caché de ça. Je l'ai adoré comme entraîneur. C'est un entraîneur qui est là pour ses joueurs, qui défend ses joueurs. Moi, je l'ai adoré. Mais écoute, je suis pas certain que Claude Julien est le problème quand je regarde les choses de l'extérieur. Puis si on cherche un entraîneur qui veut enseigner un système défensif, écoute, on aurait tous dit que Claude Julien aurait été l'homme de la situation si c'est pas lui qui était en chef présentement. Donc, j'ai de la difficulté à comprendre exactement ce qui se passe puis pourquoi les joueurs veulent pas jouer défensivement ou pourquoi ils prennent autant de chances.
C'est sûr que mais c'est quoi le souvenir que t'as de Patrick? Puis je sais bien que publiquement, il y a pas personne qui va s'écorcher là. Donc t'as vraiment aimé les gars l'aimaient comme coach. T'étais pas là toutes les années, mais qu'est-ce que tu peux nous dire qui amène à une équipe comme entraîneur? Puis là, ça fait quand même une couple d'années qu'il est plus au Colorado, mais ça avait bien commencé.
Oui, ça avait bien commencé. Écoute, c'est un entraîneur qui amène beaucoup d'émotions.
Non, je te crois pas.
puis, tu sais, une des choses, Patrick, c'est qu'il est là pour ses joueurs. Puis lui, il avait pas rien à gagner. Écoute, il a gagné son argent. Il est pas là pour juste essayer de se défendre ou essayer de faire les bonnes choses pour plaire à ses boss. C'est ce qu'il nous disait régulièrement. Il dit, moi, tout ce que je veux, c'est gagner. Je veux vivre ce que j'ai vécu auparavant dans ma carrière, de gagner des coupes cette année. C'est ça qui m'importe. Donc, c'est pour ça que les joueurs embarquaient. Puis c'est sûr que comme entraîneur, tu peux pas faire l'unanimité. Il y a tout le temps des joueurs qui vont pas aimer ce que tu amènes ou ce que tu essaies d'enseigner ou la façon dont tu le fais. Mais je te dirais que la majorité des joueurs étaient derrière lui parce que justement, il y avait le dos de ses joueurs. C'est un entraîneur qui veut protéger ses joueurs avant tout, puis les joueurs respectaient ça. Je me souviens quand Patrick est parti, j'ai eu la chance de discuter avec Tyson Barry puis Eric Johnson, puis ils me disaient les deux la même chose, que c'était plus pareil sans Patrick. Ils s'ennuyaient de lui, du fait qu'il amenait tellement d'émotions à chaque jour à l'aréna. C'est ce qu'il demandait à ses joueurs en retour également.
OK. Fort intéressant comme input dans cette discussion-là, Daniel. Et j'ai envie de dévier un peu sur le dossier Bill Peters qui a remis sa démission aux Flames de Calgary aujourd'hui. À ta connaissance, puis je m'attends pas à ce que tu nous donnes un front page ce soir, Daniel, parce que dans le fond, les choses que tu avais à dire sur ta vie, tu les as racontées dans ton livre. Mais as-tu été témoin de pas mal d'histoires qui sortiront peut-être jamais ou qui sont pas sorties au moment où l'on se parle, qui avaient pas d'allure dans le hockey?
Ben oui, écoute, ça fait partie, pour moi, ça fait partie du hockey. Il y a des choses qui ont été faites, que j'ai vues, qui sont un peu inexplicables. Écoute, c'est comme ça que c'était. C'était comme ça pendant plusieurs années dans le monde du hockey. La majorité des joueurs ont été élevés là-dedans. Donc oui, je suis pas surpris, disons, d'entendre plusieurs histoires là, qui sortent. Pour moi, c'était juste une question de temps avant que ça commence à sortir. Puis je pense qu'on va en entendre. Il y en a encore plusieurs là, histoires qui vont continuer à sortir comme ça. Dans le cas de Bill Peters, ben écoute, je pense que les Flames et lui, je sais pas si oui, j'ai entendu dire que c'est lui qui avait remis sa démission. Je suis pas sûr que les Flames avaient d'autres options. De toute façon, je pense pas qu'on pouvait le ramener après ce qu'on avait entendu. Donc, je suis pas surpris là de ce côté-là.
C'est drôle, ça me faisait penser à ça, puis toi aussi, t'as dû repenser à tout. Mais c'est drôle ce que tu dis, ben non, mais c'est comme le hockey. Il y a beaucoup de choses anormales qui ont eu l'air normales longtemps dans le hockey, Daniel, hein?
Ben oui, t'as totalement raison. C'est des choses qu'on était habitués, ça faisait partie, je pense que du côté des entraîneurs aussi, tu sais, dans le temps des Mike Keenan, les choses se passaient, c'était pas mal pire qu'aujourd'hui, puis c'était pas mal pire que ce qu'on entend, les histoires qu'on entend qui sont sorties les derniers jours aussi. Puis je dis Mike Keenan, mais je parlais de cette année, ces années-là, j'ai pas de connaissances personnelles en fait de Mike Keenan, juste que je sais qu'il était un entraîneur très très dur sur ses joueurs, mais je suis certain là qu'il y avait des histoires dans ce temps-là qui étaient pas mal pires que ce qui sort là présentement.
J'en ai un autre, ça me faisait penser à un autre angle de climat malsain. J'ai envie de penser qu'il y a des joueurs qui ont peut-être agi de pire façon envers des coéquipiers que des entraîneurs comme Bill Peters l'ont fait. Est-ce que je me trompe?
Probablement que non. J'ai rien qui me vient en tête
non.
Comme ça vite fait.
Des vétérans, des fois, avec des jeunes, puis non, il n'y a pas de l'abus un peu.
Wow, oui, OK, là, je te vois venir.
Ah, ouais,
envers les recrues, oui, j'avoue que...
Notamment.
Oui, c'était probablement. Oui, c'était. Puis, écoute, j'ai vécu des choses, même à mes années, à moi aussi, qu'on regarderait aujourd'hui et qu'on se dirait, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Puis des affaires, des choses anodines, comme, tu sais, les recrues n'ont pas le droit de manger avant que les vétérans aient été cherchés au buffet, pas le droit de sortir de l'autobus avant que les vétérans aient sorti de l'autobus. C'est des choses niaiseuses comme ça que aujourd'hui on regardait, puis les gens diraient, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure qu'on agisse encore de même de nos jours.
Fort intéressant de te parler de tout ça, Daniel. J'ai hâte de voir comment ça va se traduire pour le Canadien. Deux matchs en fin de semaine. Mais es-tu d'accord pour dire que si tu te mets à mieux jouer défensivement, parce que Claude, tantôt, c'est sûr que lui, il veut pas afficher de la panique. C'est l'entraîneur. Il continue de rester calme, avoir un bon discours. Il dit, bon, mais là, on est bon à compter des buts. Il s'agit de corriger, d'arrêter d'en donner. Mais moi, pis c'est sûr que Claude, il le sait, là. Et c'est pas moi qui vais y apprendre quoi que ce soit sur le hockey. Mais si tu te mets à jouer mieux défensivement, ton offensive va changer. Le Canadien est une équipe de contre-attaque jusqu'à l'an passé. Puis là, c'est une équipe qui se fait piéger à son propre jeu.
Ouais. Puis je regardais, je crois, les 4-5 dernières défaites du Canadien, on domine au chapitre des lancers à chaque soir. Écoute, au dernier match face aux Devils, 48 lancers. C'est impressionnant quand même, offensivement, ce que le Canadien est capable de générer. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est de trouver cette ligne fine où on prend des chances offensivement, mais quand même pas des chances qui vont tourner en des deux contre un ou des échappés de l'autre côté. C'est ça que les joueurs doivent comprendre du côté du Canadien, parce qu'offensivement, il n'y a pas de problème là. C'est juste d'être plus intelligent avec la rondelle quand on prend des chances, puis prendre les chances qui font de l'allure, pas celles là qui, comme je disais, donnent des surnoms à l'adversaire.
Est-ce que le Canadien va affronter de redoutables Flyers demain? Les Flyers qui ont gagné de façon assez facile, semble-t-il, selon le pointage, 6-1 contre Détroit aujourd'hui. Est-ce que c'est un bon timing pour le Canadien d'affronter Flyers demain à Montréal, Daniel?
Oui, des fois, c'est un bon timing. Mais premièrement, les Flyers ont joué ce soir, donc ça, c'est un avantage pour le Canadien. On affronte une équipe qui va être un peu plus fatiguée, mais une équipe qui a le vent dans les voiles.
On pensait ça samedi passé contre les Rangers, mais...
Oui, ben c'est ça. On ne sait jamais. Mais écoute, le match d'aujourd'hui pour les Flyers n'a pas été aussi facile que ça l'avait l'air. On a marqué là, plusieurs buts en troisième période, mais les deux premières périodes, les Red Wings étaient très, très physiques face aux Flyers. Puis finalement, ça a débloqué pour les Flyers en troisième, mais c'était pas un match aussi facile là, que ça l'avait l'air.
Allez, juste en finissant, quand Patrick avait brassé à baie vitrée au premier match contre Bruce Boudreau, là, c'était quoi que les joueurs se disaient après la game?
Ben écoute, je pense qu'un peu partout dans le monde du hockey, là, les gens se demandaient est-ce que Patrick avait perdu la tête. Voyons donc, tu peux pas faire ça dans la Ligue nationale quand tu es un entraîneur recru à ton premier match. Mais quand je reparlais aux joueurs, quand je suis arrivé au Colorado quelques saisons plus tard...
C'était pas la même année.
Non, moi j'étais pas là, mais les joueurs me disaient tout de suite, on a compris que il était avec nous autres, qui faisait partie de la gang, parce que je me souviens pas c'était peut-être Duchesne ou McKinnon qui s'était fait frapper, puis il avait pas aimé ça, puis il avait lancé le message tout de suite qu'il était là pour défendre ses joueurs, puis il avait le dos à ses joueurs. Fait que les joueurs avaient très très bien aimé ça, là, ce que Patrick avait fait à son premier match. C'était bien placé de sa part, c'était très très intelligent de sa part pour avoir les joueurs derrière lui.
Tu connais Rod Stewart, Daniel, certainement. Tu connais tes vieux succès? Oui. Passion. Ça en prendrait petit peu plus. Ça va en prendre plus demain, mon Daniel. Sors donc.
Ben, j'ai bien hâte de voir ça. Hey, j'ai
Daniel,
bien hâte de voir ça.
Toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine.
Salut, Mario.
À bientôt. Salut, Dan. On revient tout de suite avec Jérémy Rainville et Martin McGuire.